Et nous continuons notre périple iranien à 7h19 sur France Culture avec vous, Thierry Garcin, les enjeux internationaux.
Et bonjour Marc.
Femme et pouvoir politique aujourd'hui, vous interrogez depuis Genève Mohamed Reza Djalili.
Bonjour Mohamed Reza Djalili.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. On peut renvoyer tout de suite d'ailleurs à votre ouvrage intitulé « L'Iran de A à Z » chez André Versailles, éditeur, paru cette année où il y a une entrée qui s'intitule, sauf erreur, si mes souvenirs sont, qui s'intitule tout simplement « Femme ». Alors il est difficile de généraliser Mohamed Reza Djalili sur un thème pareil, a fortiori dans un pays où les libertés individuelles et collectives sont sévèrement contingentées, voire refusées. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Quelle part les autorités réservent-elles à la femme dans la vie publique? Quelles fonctions d'ailleurs ont-elles remplies dans la guerre Irak-Iran qui a duré 8 ans, déclenchée par l'Irak bien sûr, et qui d'autre part a provoqué la mort de centaines de milliers de personnes? Quel rôle peut-être les femmes ont-elles joué dans les grandes manifestations de l'année dernière, en juin 2009? Leur rôle, on l'a entendu à l'instant dans le journal d'Aurélie Kiffer par l'intermédiaire de Delphine Minoui, 60% d'étudiants sont des étudiantes. Et puis les élections, les personnalités féminines, le rôle au Parlement, etc. On voit que le thème est très riche. Qu'est-ce qui vous frappe d'emblée ?
Oui, je crois que la première chose à avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une égalité, une inégalité entre hommes et femmes qui est un principe, je dirais, structurant de différents droits de la République islamique, à commencer par la Constitution qui, dans son article 19 consacré aux citoyens iraniens, oublie de mentionner l'égalité entre femmes et hommes, et il y a un autre oublie aussi l'égalité entre religions. Mais cela n'empêche pas les femmes iraniennes de manifester, d'être actives sur la scène sociale, dans la vie économique, et aussi à l'université, dans le domaine culturelle, dans la littérature, dans tous les arts, dans le cinéma, etc. Mais sur le plan officiel, les femmes ne peuvent pas être candidates à la présidence de la République, les femmes ne peuvent pas être juges, il y a très peu de parlementaires femmes, dans l'Assemblée actuelle où il y a 290 députés, il n'y a que 8 femmes, ça ne fait même pas 3% des députés, donc elles sont un peu exclues de la scène politique officielle, elle existe dans la société, et les événements de juin 2009, la contestation de l'élection d'Ahmadinejad a eu comme personnalité emblématique Neda Hajj-Soltani, qui a été assassinée par un Basiji, et en plus, une des principale dirigeante du mouvement, c'est l'épouse de M. Moussavi, Zahra Rahnavard, qui est très active et qui continue aujourd'hui à diriger ce mouvement, peut-être même plus activement que son mari. Ceci étant, la femme iranienne subit aussi une ségrégation. À l'école, la mixité est interdite. Les femmes ne peuvent même pas assister à des manifestations sportives comme les matchs de football. Il y a eu un film merveilleux sur ce sujet, Offset de Jafar Panahi. Donc, elles vivent une vie extrêmement difficile. Et il y a énormément de femmes en prison à l'heure actuelle, des étudiantes, des journalistes, des blogueuses, etc. Et beaucoup de personnalités féminines, comme d'ailleurs Mme Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, a été obligée depuis juin 2009 à s'exiler à l'étranger.
Voilà, c'était prix Nobel de la paix 2003. Mohamed Reza Djalili, je voulais vous poser aussi quand même une question intéressante. Il faut voir ça sur le temps long passé, puisque si les femmes françaises ont eu le droit de vote au lendemain de la guerre, les femmes iraniennes ont eu le droit de vote dès 1963, donc lors de la fameuse de l'épisode avorté d'ailleurs de la Révolution blanche.
Oui, les femmes iraniennes ont été admises à participer aux élections en 1963. Parmi, c'était une série de réformes proposées par le chat à l'époque. D'ailleurs, dans cette période, une des raisons de la contestation de ces réformes menées d'ailleurs par Khomeini était justement ce droit de vote accordé aux femmes. Mais une fois la révolution ayant réussi, le régime ne pouvait pas faire marche arrière et on a accepté la participation des femmes aux élections. Et donc les femmes sont sur ce plan-là présentes dans la vie politique.
On a tendance à croire que l'un des vecteurs de l'émancipation et de l'évolution du statut de la femme en Iran passe par évidemment l'éducation à la fois primaire, secondaire, supérieure.
Tout à fait vrai, l'éducation joue un rôle considérable. Le mouvement d'éducation des femmes avait commencé déjà dans les années 60 et ça s'est énormément amplifié à la suite de la révolution. Et aujourd'hui, une majorité d'étudiants iraniens sont des étudiantes. Il y a eu même un débat au Parlement en disant qu'il fallait limiter le nombre d'étudiantes à l'université parce que cela créait des problèmes sociaux difficiles à gérer, mais pour le moment, heureusement, cette loi n'est pas passée. Mais ce qui est quand même assez préoccupant, c'est la dimension internationale aussi de la question des femmes iraniennes. Vous savez que en avril dernier, l'Iran a été élu membre de la commission pour la condition féminine, alors que la République islamique n'a jamais ratifié la Convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. C'est aussi un paradoxe extraordinaire. On a l'impression que l'Iran peut aujourd'hui, au niveau international, à partir de son entrée dans cette commission, qui aura lieu l'année prochaine, et durant 4 ans, participer au débat sur le problème des droits des femmes, oui. Alors qu'à l'intérieur de l'Iran, ces droits sont constamment bafoués.
On a vu d'autres contradictions en matière également des défenses des droits de l'homme avec ce fameux Conseil des droits de l'homme de Genève, justement, d'où vous nous parlez. Juste d'un mot, mais un mot, est-ce qu'on peut parler d'un courant féministe, ce qui est encore un autre sujet en Iran ?
Écoutez, je pense qu'il y a eu durant les deux premières décennies de la révolution deux courants, un courant féministe islamiste un peu proche des thèses du gouvernement et un courant féministe de type
contestataire.
Laïque, oui, mais aujourd'hui, ces deux courants sont en train de se rapprocher dans la contestation du sort qui est fait aux femmes en général et dans les manifestations qui ont suivi l'élection d'Ahmadinejad. Ces deux courants étaient tout à fait présents.
Merci encore de cette concision. Mohamad Reza Djalili, professeur honoraire à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève.
Merci Thierry Garcin. Bien sûr, les enjeux à retrouver sur France Culture.com.